Vous écoutez
RMC. 5-7, le Morning RMC.
Et c'est l'heure du journal de Victor Pourchet. Bonjour Victor.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une, les aveux de Cédric Jubilard.
Dans une lettre que son avocat dit avoir reçue, improbable rebondissement plus de 5 ans après la disparition de sa femme Delphine et alors que l'homme qui a toujours nié les faits doit être rejugé pour meurtre en décembre. Le feu qui redouble d'intensité dans les Pyrénées-Orientales, plus de 10 000 personnes ont quitté leur habitation en catastrophe et le Tour de France qui doit passer à proximité privée de spectateurs. Le mondial de foot, la Norvège sort le Brésil, l'Angleterre vient à bout du Mexique et la FIFA fait enrager le monde du foot en cédant aux caprices de Donald Trump.
Coup de tonnerre dans l'affaire la plus mystérieuse de la décennie.
L'avocat de Cédric Jubilard assure ce matin que l'homme avoue le meurtre de sa femme Delphine, disparue en 2020, dont on n'a jamais retrouvé le corps. Marion Gauthier, avec nous en direct ce matin. Cédric Jubilard a toujours nié les faits. Il devait même être rejugé en appel à la fin de l'année, mais c'est une lettre qui change tout.
Oui, une lettre manuscrite et des aveux formels remis ces dernières semaines à ses avocats. Nos confrères de la Dépêche du Midi ont pu consulter ce document. Cédric Jubilard y revient sur cette soirée du 15 au 16 décembre 2020 dans le Tarn, sur cette énième dispute avec son épouse Delphine. Elle envisage de refaire sa vie avec un autre homme, des insultes aux refusés. La dispute dégénère. Comment a-t-il tué l'infirmière de 33 ans? Où a-t-il caché son corps? L'accusé réserve ses détails de la disparition à la justice, déclare son avocat, maître Pierre de Buisson, qui dit le soulagement de son client. Dans cette démarche, ajoute-t-il, Cédric Jubilard veut donner une sépulture à la mère de ses deux enfants. Ces aveux consignés par écrit, c'est un tournant dans l'enquête. L'accusé va devoir être réentendu. Les recherches devraient reprendre. Le peintre plaquiste a été incarcéré il y a 5 ans, condamné en octobre dernier à 30 ans de réclusion criminelle. Le procès en appel devrait s'ouvrir en septembre.
Les explications de Marion Gauthier pour RMC.
Il est 6h02 sur RMC. Le feu gagne du terrain dans les Pyrénées-Orientales.
Et des communes entières ont été invitées à évacuer en une nuit. 26 au total à l'ouest de Perpignan. 10 000 personnes concernées, indique la préfecture. Autant d'habitants contraints de tout abandonner en urgence, comme à Ille-sur-Tête. Son maire, Alain Fabresse, est plus qu'inquiet.
Ça attriste, c'est vraiment horrible, quoi. C'est la première fois que je vois un feu aussi important aux portes de la ville. Il y a eu des maisons qui ont été dévastées, hein. C'est un désastre. Il y a des gens qui vont perdre beaucoup. Ce que je crains, c'est de voir, comme tout le monde, la végétation qui part en fumée, un patrimoine très très beau, très important, qui risque de disparaître. Enfin, voilà. Et j'ose pas que tout retournera dans l'ordre. C'est très difficile à vivre, très difficile.
Et 4500 hectares parcourus par ce feu qualifié de gigantesque par les autorités, c'est 2 fois plus que ce qui avait été annoncé hier, alors que le Tour de France passe aujourd'hui à quelques kilomètres de là. Départ d'Espagne, arrivée aux Angles, décision prise hier, ce sera sans public au bord des routes. Écoutez Christian Prudhomme, le directeur du Tour.
Nous sommes convenus, au vu des conditions exceptionnelles et effroyables de l'incendie qui règne dans les Pyrénées-Orientales, de ne pas faire passer la caravane sur les 40 derniers kilomètres de la partie finale en France, de limiter le passage aux coureurs et aux véhicules d'organisation qui sont indispensables, et on invite le public à ne pas venir aux abords de la course ni sur le site d'arrivée.
Et c'est un des fronts, les Pyrénées-Orientales, un des fronts des incendies. Il y en a beaucoup d'autres. Ça brûle dans l'Aude voisine, dans l'Ariège, dans l'Hérault, la Drôme. L'une des seules bonnes nouvelles, elle nous vient du Gard, près de la ville de Lédenon, où un feu a été fixé hier après avoir ravagé plus de 540 hectares. 3 villages ont dû être confinés, alertés par un message de la préfecture avant de passer une nuit la boule au ventre, Martin Lange.
Charlotte a reçu le message de la préfecture hier. Elle est rentrée chez elle à la hâte. Sa maison se trouvait à quelques centaines de mètres des flammes.
C'était tout noir. Des petits copeaux de cendres qui tombaient sur le jardin et une odeur très forte de fumée. J'ai vu passer les 7 canadaires là devant ma fenêtre. Ça s'arrête pas de faire des allers-retours.
Elle a préparé des affaires en cas d'évacuation pour elle, son chien et ses 4 chats.
Déjà des habits, des papiers, des cages pour transporter des animaux. En cas où il faut que je parte rapidement. Je suis très angoissée.
John lui tient un hôtel-restaurant à Cabrières, à quelques kilomètres plus au nord. Confiné avec ses clients, il a suivi hier l'évolution du feu depuis sa terrasse.
Toutes les routes sont bloquées, on n'a aucun accès pour venir à l'hôtel et en sortir non plus. Donc on a des clients qui sont bloqués chez nous. On a rassuré plusieurs clients qui sont très angoissés, qui n'ont pas l'habitude de vivre ça.
On préférerait fuir, souffle-t-il. Dans chacune des communes, des locaux ont été mis à disposition pour accueillir les sinistrés.
Et le Gard, tout comme 15 autres départements du Sud
et du sud-ouest sont aujourd'hui en vigilance orange canicule.
Et comme vous le faites depuis tôt ce matin, que ce soit au 32-16, sur le WhatsApp RMC 06-12-424-424, vous nous dites ce que vous voyez, ce que vous sentez, hein, aussi comme Yannick, qu'on entendra juste après ce journal qui est dans les Pyrénées-Orientales, justement le département le plus touché.
Et à 6h05 sur RMC, ça va vous faire réagir également. Vous les avez vus fleurir un peu partout, dans les trains, dans les hôtels. Les espaces sans enfants sont dans le viseur de la Commission des droits de l'homme qui remet aujourd'hui ses recommandations à la haute commissaire à l'enfance. Bérangère Bocquillon, vous les avez consultées en avant-première pour RMC. Elles ont pour but ces recommandations de mettre un coup d'arrêt à cette tendance.
Oui, avec une recommandation phare, interdire les espaces No Kids en France. Des espaces illégaux, selon Ophélie Marel, juriste à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, autrice du rapport.
C'est discriminatoire, faire une distinction fondée sur l'âge, c'est une infraction pénale. À partir du moment où on peut discriminer personne dans la société, les femmes ou les personnes âgées par exemple, on ne discrimine pas non plus les enfants.
Des enfants qui disparaissent de l'espace public, où ils ne sont plus les bienvenus. C'est pourquoi la Commission recommande des panneaux de signalisation à hauteur d'enfants, des rues piétonnes autour des écoles, la réduction de la vitesse des voitures et des classes en plein air. Car nous sommes en train de fabriquer des enfants d'intérieur, explique Ophélie Marel.
Les parents ont peur des accidents de voiture et ont peur des enlèvements. Mais en fait, les enfants peuvent également subir des agressions en ligne quand ils sont sur les réseaux sociaux. Les enfants ne sont pas forcément plus en sécurité à l'intérieur.
Et le rapport conclut que les enfants sont majoritairement perçus comme des personnes à surveiller plutôt que comme des êtres aussi dignes que des adultes. Il faut que ça change.
Alors, faut-il supprimer ces espaces No Kids, les campings, les hôtels? Est-ce qu'au contraire, vous êtes client peut-être de ce type d'établissement? Venez nous le dire, vous êtes les bienvenus au 32-16. On en parle ensemble et on en parlera à 6h40 avec notre invitée, Sarah El Haïry, commissaire à l'enfance, haute commissaire à l'enfance.
C'est elle qui reçoit ce rapport, justement. Ouais. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à interdire ces espaces No Kids là? C'est le débat qui va être posé finalement. On vous attend au 32-16.
Encore une nuit de folie à la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Avec d'abord cette qualification pour les quarts de finale de l'Angleterre. Angleterre réduite à 10 face à un Mexique à domicile. Score final 3-2. La sortie du Brésil, un peu plus tôt terrassée par un doublé du Norvégien Haaland, désormais co-meilleur buteur du mondial en compagnie d'un certain Lionel Messi et d'un autre certain Kylian Mbappé. Cette défaite de 1-0, c'était le dernier match avec la Seleção de la star brésilienne Neymar qui a annoncé sa retraite de la sélection. Et puis alors, c'est une phrase invraisemblable et pourtant bien vrai. Donald Trump parvient à faire annuler la suspension d'un joueur américain. C'est le buteur Folarin Balogun qui avait écopé d'un carton rouge, mais ça, c'était avant un coup de fil du président américain Nicolas Pelletier.
Oui, et selon de nombreux médias américains, Donald Trump a directement contacté le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour demander le réexamen de la suspension du joueur américain Folarin Balogun. Juste après cet appel, l'instance a annoncé la levée de la suspension du joueur, une décision que ne comprend pas le sélectionneur belge Rudy Garcia, qui doit affronter les États-Unis ce soir.
Je savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe. De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'il y ait ce genre de décision. Voilà.
Merci à la FIFA d'avoir réparé une grande injustice, a directement commenté Donald Trump sur son réseau social. Aucune explication n'a accompagné la décision qui pourrait s'apparenter à un acte d'ingérence de la part des États-Unis. Stupéfaite par cette décision, la Fédération belge se réserve le droit de saisir le tribunal arbitral du sport.
Alors, est-ce que ça suffira aux Américains pour battre la Belgique? Réponse dès 2h du matin, à suivre évidemment sur RMC, radio officielle de la Coupe du Monde. Et puis dès 21h, l'autre huitième de finale, Espagne-Portugal, et ce pourrait bien être le dernier match de Cristiano Ronaldo en sélection en cas de défaite.
Quelle affiche, 21h ce soir, Espagne-Portugal, vous allez vibrer hein, sur RMC, ça c'est une de ces belles affiches à ce stade de la compétition, il y en aura de plus en plus. Merci beaucoup Victor Ponchet, vous vivez la Coupe du Monde sur RMC bien entendu.